Kaléidoscope. Bonjour et bienvenue pour cette cinquième émission de Kaléidoscope sur CFM à Montauban. Qu'est-ce qu'on peut vous dire pour commencer? C'est on vous souhaite bien sûr à toutes et à tous une excellente année 2014, nos meilleurs vœux, et vous écoutez CFM Radio sur 101.2. Kaléidoscope. Donc l'émission Haute en couleur qui vous apporte une vision éclairée de la vie artistique et culturelle ici et ailleurs. Retrouvez-nous le mardi, un mardi sur deux à 19h et un dimanche sur deux pareil à 21h. Donc le principe de l'émission c'est assez simple, on a des chroniqueurs autour de cette table qui viennent vous apporter une vision éclairée de ce qui s'est passé à Montauban au niveau culturel et artistique. Donc pour m'accompagner aujourd'hui, on est l'équipe presque au complet. On a Rosendo, notre ami professeur.
Bonjour Tigre.
Bonjour Rosendo, bonne année.
Bonne année aussi.
Cassandra.
Oui, bonne année tout le monde, Happy New Year's.
Notre mélomane enchantée, Elysiane. Bonjour Elysiane.
Salut Tigre.
Et bonne année aussi.
À toi aussi.
Et pour nous faire la technique aujourd'hui, on remercie Florent qui est parmi nous. Donc au sommaire de cette émission... si je ne m'abuse, on va parler un petit peu de street art. Voilà ce qui se fait au niveau pictural et graphique dans les rues de Montauban. Donc ça sera Lisiane et moi-même qui allons épiloguer sur ce sujet bien ambitieux. Ensuite, on passera par la galerie. La galerie, je ne sais plus quoi.
Art of,
ouais, une nouvelle galerie à Montauban, donc qui est ouverte et qui expose les toiles futuristes de Monsieur Gilles Azaro. Et pour finir cette émission, un petit débat sur de la musique. Là, Cassandra se fera un plaisir de nous dire et de nous rapporter ce qui s'est passé au Rio le 20 décembre, si je ne m'abuse. Et c'était The Last Party Before the Crack. Le dernier show avant que tout pète, quoi.
Oui.
Ouais. voilà. Est-ce que vous avez vu des trucs un peu cette dernière quinzaine à Montauban, là, pendant les fêtes, que vous vouliez parler? Oui, c'est génial.
Tu as vu, sinon personne n'est rien allé voir, en fait.
Non, on était au bord de la cheminée, sapin, okay. Cadeau de Noël.
Alors moi, le 21 décembre, je suis allée fêter le court-métrage, puisque c'est la journée nationale du court. Ça s'appelle Le jour le plus court.
D'accord. Et c'est vraiment le jour le plus court de l'année.
C'est vraiment le jour le plus court de l'année, c'est l'équinoxe d'hiver.
L'équinoxe d'hiver.
Donc, on en profite pour aller voir des cours. Et dans le Tarn-et-Garonne, il y a trois endroits où on peut aller voir des cours à cette occasion. Toutes les projections sont gratuites, hein. C'est vraiment pour diffuser
le court-métrage.
Le court-métrage, c'est quoi? C'est 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes?
Ça peut aller jusqu'à une vingtaine de minutes.
Ah, OK.
Ça excède rarement les 30, voilà.
Donc c'est le court moyen. Moyen court.
Non, il peut y avoir des très courts de 2 minutes, effectivement, c'est entre les deux.
C'est entre le clip et le mini-film.
C'est ça. Oui, on peut le définir comme ça. Donc, effectivement, à Montauban, on pouvait aller voir des cours avant les films, donc au Paris et au Cap Cinéma. Mmh. Je ne le savais pas, hein, j'avais pas vu l'information. Et au cinéma de Caussade aussi, qui proposait...
Au Kerlis. Non, ça c'est à Keylus.
Au cinéma théâtre de Caussade, qui proposait un cours qui s'appelait Bloody Christmas, la révolte des sapins, donc c'est drôle le titre. Et moi, pour ma part, je suis allée à la médiathèque de Nègrepelisse. Vous n'êtes pas censé sans savoir que j'aime bien cette petite salle.
Oui,
que
tu es.
J'y vais souvent, effectivement. Oui, j'en reparle.
En vélo? Non,
je ne vais pas en vélo. Donc, la sélection était autour des cours était autour du thème rural, logique.
Du court-métrage rural.
Du court-métrage sur la ruralité, sur la vie rurale, ou la ruralité, ou tout ce qui peut s'y passer, des fêtes.
C'était pas du reportage, c'est vraiment
C'était pas du reportage. Non, c'était des fictions. Alors, il y avait une première partie avec des cours à la destination des enfants, enfin, plutôt des cours jeunesse, et les autres plutôt adultes. Il y avait aussi des films d'animation. Donc, c'était. Ce qui est génial, c'est que c'est assez varié. Et il y avait un petit bonus, on a eu l'occasion de rencontrer le réalisateur d'un cours qui s'appelait Les Condiments Irréguliers. et d'Adrien Beau. Donc c'était une très très bonne après-midi. Il y avait pas mal de monde, des nouveaux en fait. Ouais. Et voilà, on passe un très très bon moment et on découvre plein de choses différentes.
Ce qui est bien avec le court-métrage.
Et c'est chaque année. C'était la troisième la édition.
Yes. Voilà. Et le court-métrage c'est bien. C'est vrai que des fois se fader des films qui durent 2-3 heures, c'est un peu chiant.
Voilà, là ça permet de zapper effectivement et de découvrir plein de styles différents.
Ouais, pour avoir des amis qui font quelques courts-métrages, je sais que l'exercice est quand même assez difficile de raconter une histoire en 10 minutes, c'est un exercice assez compliqué. Donc merci.
Voilà, donc rendez-vous le 21 décembre 2014.
Voilà, pour du court-métrage.
Donc le 21 décembre, j'étais aussi dans une salle obscure pour voir un film, mais c'était pas dans l'Éternet-Garonne, hein, c'était à l'Utopia de plus loin, à Bordeaux. Et j'ai vu un film, le dernier film chinois de Chan Chak-e, qui c'est un film très très violent, mais qui fait un portrait de la Chine actuelle. Merci. Et le titre, c'est Touch of Sin. C'est une touche du péché. Je pense que une touche de péché.
A touch of sin.
A touch of sin.
A touch of sin. Oui, un petit toucher de péché.
Oui. Et c'est un film très très violent qui fait un portrait de la Chine actuelle avec toutes les contradictions.
C'est Chine moderne.
La Chine moderne, mais c'est le résultat des grandes confrontations entre les couches différentes groupes sociaux qui se retrouvent en plein milieu de toutes ces réformes du néolibéralisme sauvage, toutes les affaires soit des délinquances de rue, comme dans la délinquance des cols blancs, non, avec les corruptions des autorités et tout ça. Oui, donc voilà.
Intéressant, visiblement.
Oui. Ok, moi je vais... En fait, j'ai fait une découverte pratiquement tout récent, pratiquement aujourd'hui. Il est un nouvel café.
Un nouveau café,
merci.
Un
coffee shop s'appelle New Kind. Donc, je suis allée, il est Arnaud et Xavier qui ont ouvert un coffee shop qui a beaucoup de produits bio, les produits locaux. Donc, ça veut dire que la charcuterie vient de la rue à côté, le fromage aussi. Ils font beaucoup de nourriture homemade. Ça veut dire fait maison, parce que tous les deux, ils ont passé aux États-Unis. Ils ont passé un peu de temps aux États-Unis. Ils aimaient beaucoup le concept des bonnes nourritures faites à maison. Donc ça, c'est aux États-Unis, hein. Écoutez bien. Et aussi, ils ont demandé une boulangerie locale de faire des bagels. Et moi, je vais pas goûter les bagels. J'espère qu'ils sont comme à New York. Il faut faire un petit tour, c'est Place de Coq, et c'est ouvert qu'une journée.
Tout ça parce que la culture se passe aussi autour d'une table.
Exactement. Et donc, voilà, c'est un concept américain, importé en Amérique, de nourriture et de bonne nourriture. Donc, ça veut dire que les Américains sont capables de faire de bonnes choses.
C'est vraiment bien de le souligner. Qu'on importe de la nourriture américaine de qualité en France.
Exactement.
Enfin, un concept.
Le concept.
La nourriture est ici. Donc, je suis contente de le voir. C'est bien, hein. Oui, Rosendo?
Oui, la nourriture, c'est local, non?
Oui. C'est produit local, mais le concept est importé aux États-Unis. Et un peu les bagels, parce que bagels, c'est pas trop français, c'est très new-yorkais.
Oui, mais le concept consiste à quoi?
Le concept, c'est de voir des très bons produits.
Des bons sandwichs.
Et des bons sandwichs. Et tout fait à même. Et des bagels, ils viennent aux États-Unis. Et c'est une espèce un coffee shop avec des bons produits, des produits d'épicerie, en fait.
Oui, mais les autres cafés ou les autres restos peuvent dire aussi qu'ils sont des bons produits. Mais quelle est la différence?
Oui, mais je crois que la différence, c'est des produits bio, pour commencer. Ils cherchent du bio. Et surtout, vraiment, ils travaillent avec tous leurs copains à droite et gauche, le fromage. Xavier travaillait à un moment donné avec le cave sur la rue de Carme. Et donc, ils ont ramassé tout le monde justement pour faire... Et je crois que c'est un peu le concept de menu. Le menu, ça change tous les jours aussi. Il n'est pas la même chose tous les jours. Ça c'est long, les arrivages au marché.
Donc, je vous invite à aller boire un café, un thé, un chocolat.
Xavier, il est très, très articulé avec le monde associatif
et aussi
avec les contacts culturels, et ça serait bien de pouvoir aussi...
Oui, ils ont pensé ça, de faire quelques concepts.
Donc on ira leur rendre visite Place du Coq, et je crois que Rosendo, tu voulais aussi nous parler rapidement de, des abattoirs.
Ah oui, oui, le musée des abattoirs.
Des abattoirs, non, des abattoirs.
L'abattoir à la sortie. Oui, et effectivement, le musée des abattoirs vient définir une exposition de l'art contemporain, c'est-à-dire les 30 ans de collection de la FRAC. La FRAC, ça veut dire le fonds régional d'art contemporain. Ouais. Et pendant 3 mois, ils ont organisé une exposition qui s'est déroulée, bien sûr, au musée, mais aussi en dehors du musée, parce que vous pouvez voir à la gare, comme dans différentes enseignes de Centre-Ville de Toulouse, les œuvres d'artistes.
Et... Ah, c'est pas uniquement aux abattoirs, alors qu'on peut
voir. Non, c'est pas uniquement aux abattoirs, oui. Mais j'étais assez déçu de la visite que je fais aux abattoirs avant qu'ils ferment, parce que il y a une succession d'œuvres contemporaines, mais les œuvres contemporaines méritent une préparation ou une explication, une espèce de pilotage, si on pourrait dire, pour que le public et même les artistes, les personnes initiées puissent suivre. Parce qu'on a besoin de beaucoup de réflexion, d'observation et de repères, surtout. Il y a un bagage quand même historique de l'évolution de l'art contemporain.
On ne peut pas avoir un rapport immédiat. Comme ça,
non,
de plaisir.
Moi, je vais prendre Rosendo, mais je crois que Rosendo, tu aimes toujours d'avoir une explication, quelque chose de très pédagogique, mais moi aussi, parfois, j'aimerais bien entrer dans un truc, je ne veux pas lire, je veux regarder, et c'est tout.
Oui,
je
mais prends pour l'art contemporain, parfois, du coup, c'est difficile d'apprécier.
Est-ce
que ça vous dit de faire une émission vraiment entièrement consacrée au débat sur l'art contemporain et qu'est-ce que le ressenti?
Oui, mais peut-être qu'on va pas le faire aujourd'hui.
Non, en effet.
Mais simplement pour préciser que effectivement, moi, quand je vais visiter une exposition, soit de l'art contemporain, de l'art moderne ou de l'art classique, moi, comme Cassandre, je vais d'abord avec l'intuition, le pif, non, pour réagir de manière spontanée. Mais je pense que pour l'art contemporain, on a besoin des deux, c'est-à-dire commencer avec l'intuition, se laisser emporter par la sensibilité spontanée du spectateur, mais aussi rien n'empêche qu'à côté peut avoir des repères.
Il me semble
que les repères qu'il y avait aux abattoirs étaient moins riches que ceux qu'il y avait dans la ville, c'est-à-dire sur les magasins ou sur la gare, il y avait des explications un peu plus fournies pour ceux qui voulaient la voir. Et dans ces cas-là, pour le musée des abattoirs, j'étais assez déçu.
D'accord, donc de toute façon c'est passé, c'est terminé, donc ça c'est plutôt une bonne chose, hein, qu'il se renouvelle et qu'il ne laisse pas des expositions traîner pendant des siècles et des siècles.
Ah oui.
En parlant de siècles, de la musique peut-être
De la musique. Mais bon, je vais un petit morceau.
Oui.
C'est un album qui vient de, un CD, excusez-moi, je suis un peu vieille. Mais c'est un CD qui vient de sortir, c'était présenté hier, c'est le groupe s'appelle Gone Dead Train. Oui. Ça veut dire le train mort qui est parti. L'album s'appelle Back to Bakersfield. C'est un album avec Tony Smith. Les principaux sont Tony Smith, Yannick Batut et Hervé Guy sur le harmonica. Et le morceau qu'on va entendre s'appelle Down, Down, Down. Non. Pour ceux qui parlent anglais, il faut bien écouter les paroles. C'est génial. Donc, ça s'appelle Down, Down, Down. C'est de Gone Dead Train.
Beside her, she looked a bit like a man. She didn't try to hide it. She said, darling, I technically am. She said her name was Lola. Hey, I said, that rings a bell. Wasn't there a song one time about that sort of girl? She's going down, down, down. Know the guys in town. Woke up next morning, she was lying by my side. I didn't get the impression I'd been taken for a ride. I'd run out of razors, so the neighbors wouldn't know. I drove her back to Brownsville before her stubble show. She's going down, down, down. I know the guys in town. She stick around.
Now she's working in that honky-tonk up on Bunker Hill. I'll see her at the weekends if I've got some time to kill. She might look like a woman, but she fights just like a man. She sure comes in handy when the shit hits the fan. She's going down, down, down. Know the guys in town. A while in Memphis, I shot a man in Maine. I spent some time in prison for selling Mary Jane. I'm still a little footloose, but there's nowhere I'm bound. Since I met Lola, I'm happy to stick around. She's going down, down, down on all the guys in town. Song should have an ending, but there's nothing springs to mind. I ain't no Ray Davies, and words are hard to find. But if you're ever up in Brownsville looking for a good time, you're sure to find Lola under a neon sign. She's going down, 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 and all the guys in town.
Kaléidoscope. Oui. Donc retrouvez Kaléidoscope, l'émission qui dépote, voilà, qui vient faire le tour de l'actualité culturelle à Montauban et ailleurs, avec Rosendo, Cassandra, Lisiane, Polélie qui n'est pas là aujourd'hui et moi-même Tigrou. Voilà, c'est tous les mardis. Non, c'est pas tous les mardis, c'est un mardi sur deux à 19h et c'est tout. Et non, pas tout.
Un dimanche
sur deux
à 21h.
Voilà. Donc on reprend pour ce début d'année, on va parler un peu de street art à Montauban. Street art.
J'avais envie de parler d'œuvres qu'on peut, enfin de peinture ou d'œuvres qu'on peut aller voir dans la rue, parce qu'on n'est pas obligé d'aller dans des structures,
musée,
en fait, des
musées,
des galeries.
Ouais. Et il y a des artistes qui proposent gratuitement de faire des choses dans la rue et de les montrer aux gens.
Et donc moi je voulais parler de deux pochoirs qui se trouvent rue du vieux Poix, non loin du musée Ingres.
Tout à fait.
Qui ont été réalisés à l'occasion d'une de l'exposition Ingres et les modernes qui s'est tenue en 2008-2009
au musée. Mais c'est pas des pochoirs, c'est le truc avec les petites céramiques.
Tu as raison.
Ah, oui.
Ce qui est aspect
simulador. Ah, je l'ai pas vu.
Alors les pochoirs, et ben parce qu'ils sont pas très visibles. Hein, on m'a guidé en fait pour aller les voir. Donc c'est deux pochoirs de mystique. Donc
pochoiriste, une pochoiriste parisienne,
très connue.
Et donc là, il y a à la fois. Alors c'est à l'intersection de la rue des Rondelles. Ça m'a beaucoup fait rire. Je sais pas si les deux rues ont été choisies par hasard. Donc il y a un pochoir qui reprend l'odalisque à l'esclave de Ingres, donc qui s'appelle Libertine sans liberté. Enfin, c'est le pochoir qui reprend l'image du tableau avec un petit texte, une phrase à côté. Et il y a aussi la baigneuse de Valpinson qui est reprise.
C'est
mystique aussi. Donc vous savez cette peinture d'Ingres, donc qui représente une baigneuse de dos avec un très long dos et un turban. Voilà, mais je la décris pour ceux qui connaîtraient pas.
Oui, la phrase, je crois qu'elle dit les femmes ont bon dos. Non,
oui, c'est ça. C'est femme passive, femme facile. Elles ont bon dos. Voilà, et voilà.
C'est excellent.
Voilà, c'est bon, on en fait ce qu'on veut. Il y a certainement un peu de militantisme derrière.
C'est le militantisme chez les pochoiristes, c'est quelque chose quand même qui est c'est la nature du pochoir.
Voilà, d'avoir des ça se bombe, voilà, et ça se réplique.
Enfin, il y a Blake Le Rat à Paris, on en a un Banksy aussi,
Banksy,
à Londres, enfin, dont les œuvres valent des centaines de milliers d'euros, et c'est du pochoir mais ça reste un acte engagé, c'est-à-dire qu'on fait pas avec du pochoir. Enfin, on peut marquer nique la police, c'est ok, mais la plupart des pochoiristes essaient d'avoir un discours.
Alors là, la différence, c'est que ça a été un message. La différence, c'est que ça a été une commande, donc avec l'appui de la.
Une commande moitié légale, moitié illicite. Alors pourquoi
Une commande de la ville.
C'est une commande de la ville à l'occasion de l'exposition.
Ah oui.
Voilà.
La commande portait sur les œuvres de Space Invader, pour être précis.
Sur celle de Mystique, si.
Non, parce que dans une rue.
Oui, dis-moi.
La rue, justement, dont tu parles, je ne me rappelle plus le nom. Voilà, c'est une des rares rues du centre-ville qui n'est pas sous vidéosurveillance.
Et oui, pourtant. Peut-être que c'est une intervention sauvage récupérée parce que il est bien indiqué sur le catalogue.
Je crois que Tigred, il connaît quelque chose dans cette histoire. Je vois l'œil qui clignote. Je me demande.
Je comprends, mais il y a aussi ce côté, oui, effectivement, un peu reculé et, où personne ne va, enfin personne ne prend cette rue de toute manière. C'est juste un écart entre deux bâtiments. Ça se trouve derrière le musée d'histoire naturelle.
Voilà, c'est tous les gens qui sortent de la boîte de nuit, le CAI, qui vont faire pipi dans cette rue aussi.
Donc, ils ont l'occasion de voir un petit peu d'art. Elles sont d'actualité, ces œuvres, parce qu'elles sont en train de disparaître. Donc, il faut absolument aller faire un petit tour de ce côté-là, la rue du Vieux Poix, en plein jour. C'est beaucoup
plus intéressant. Oui, je pense même que la commande a été faite en pensant qu'elle allait disparaître, parce qu'ils n'ont pas choisi une rue qui soit bien visible.
Oui.
Ils n'ont pas choisi un mur qui tient la route.
Ils ont choisi un mur qui soit décrépit. Confidentiel, le mur est décrépit, mais il est en train de se décrépir et puis personne n'y fait attention.
En plus, ils avaient des projets, la ville avait des projets pour
de rénovation.
Donc, il dit, avant de le faire, comme ça, on ne s'engage pas trop.
Une exposition temporaire, allez faire un tour du côté de la rue du Vieux-Pas. Et on parlait de Space Invader aussi. Il y a apparemment 10 collage de ces petites bêtes dans la ville. Moi, je n'en connais que deux qu'on peut rencontrer au détour d'une promenade sans y faire attention, notamment.
Il y en a partout.
Il y a la source qui est un peu plus grande.
Et il y a la source qui est beaucoup plus grande,
donc
bien sûr.
C'est le mairie qui a commandé ça.
Alors ça, c'est pareil, puisque c'est une reproduction de la source. D'ailleurs, d'Ingres, et donc il a intitulé cette mosaïque la source de l'invasion. Et elle se trouve donc rue du Tescou, donc c'est au pied du musée, sur votre gauche.
Juste à côté de la police municipale, par là.
C'est ça. en allant...
Voilà,
vers le parking. Donc c'est une très belle mosaïque qui est très visible. En noir et blanc.
Qui est entretenue par le musée.
Et qui est entretenue puisque c'est une œuvre. C'est une œuvre.
Commandée.
Mais par contre, dans la ville, il y a donc des petits restes du passage de Space Invaders.
Space Invaders. Oui.
Voilà.
La légende par rapport à ces petites mosaïques voudrait que si on prend le plan de Montauban et si on les trouve toutes, on les relie entre elles et ça fait justement un petit Space Invader. Le logotype, c'est les jeux vidéo des années 80 là, avec les petites soucoupes volantes de martiens pixelisées qui descendent tranquillement et vous devez les détruire avec votre petite fusée. Et lui a repris justement ce logotype et en a fait sa marque
de
fabrique.
On en trouve plein à Paris sur les façades
Space Invader dans toutes les
villes. Il a infiltré aussi quelques émissions, je sais, j'ai cru le voir à l'époque sur le plateau de Tout le monde en parle.
Possible.
C'est ça, on a tout essayé là avec Ruquier, donc
savoir, c'était le dernier cri de jeu. Je parle de comme une certaine ancienneté que j'ai. C'était le jeu le plus répandu pendant l'époque. C'était avant, dans tous les cafés, partout.
Et
c'était le seul jeu. C'était Atari. C'était le seul jeu.
Il peut être amusant de marcher en regardant un petit peu dans les recoins. Je sais qu'il y en a un auprès du monument aux morts de Bourdelle. En haut, au bout de la rampe en fait en pierre.
Oui, tout à fait.
Entre deux rues, il y en a un sur le parking de la. Enfin, dans l'escalier.
Il y en a un en face du. Oui, dans l'escalier du musée Ingres. Il y en a un en face du musée Ingres, en dessous de la boîte aux lettres de la poste. En dessous, il y a un petit. Enfin, il y en a partout. Il y en a un sur le.
Moi, j'ai une suggestion donc pour les gens qui nous écoutent. Allez, le syndicat initiative, prendre un plan de Montauban et commencer à marquer.
Et commencer
à faire la chasse au trésor.
Trouver, oui, chasse au trésor des Space
sur
Invaders.
Sur le site de Space Invaders, ils doivent être répertoriés.
C'est possible.
Voilà, puisqu'ils répertorient, ils indexent tous ces investissements.
Street art, Thor, ou street art. Et comment tu te positionnes vis-à-vis de cette manifestation, non, des mystiques avec ces phrases, parce que ce qui lit au pochoir de mystique, c'est la phrase, ce qui est assez militante, et la source, qui pour moi c'est une belle œuvre. En revanche, je te pose la question parce que moi je suis pas trop partant sur l'esthétique ou sur la pertinence même artistique de ces petites des collages, non, des céramiques ou des
mosaïques,
oui. Mm-hmm. Et donc, et là, qu'est-ce que tu en penses, toi, en tant que possesseur de la rue, des murs, non, parce que tu fais des street art.
Tout à fait. Alors, justement, le street art, c'est pas vraiment c'est pas académique dans le sens où il n'y a pas d'école du street art. Chacun peut aller dans la rue, peindre dans la rue à ses risques et périls, bien entendu, et exposer ce qu'il veut. Le graffiti, le tag en règle générale, c'est tu exposes toi ta signature, c'est ce
ça
que vous voyez.
Ça peut marquer le territoire, enfin, c'est-à-dire là où je suis passé, je laisse une trace en fait.
Oui,
les
voilà.
Gens qui font ça, voilà. Les chiens,
tout à fait. Oui. C'est...
Les filles en fait peut-être un peu moins.
C'est très animal. Non mais je continue.
C'est animal. Hein, moi je le vois plutôt comme l'esthétique du marcheur en fait, qui pose une pierre là où il est passé et ça crée un petit monument là de pierre.
Moi je fais.
Voilà, mais là pour Space Invaders je le vois plus comme ça. C'est plus regarder par où je suis passé et de
la base
d'attirer les yeux vers des endroits qu'on ne regarde pas habituellement.
Alors pour répondre à Rosendo, donc le graffiti, enfin le tag, le graffiti, c'est comme dit Lisiane, c'est de poser sa pierre pour faire son pipi ou mal, enfin c'est de s'afficher dans un maximum d'endroits. Après ça c'est quand on commence, généralement les petits taggeurs qui ont 14-15 ans et qui vont faire leur petite signature, et au fur et à mesure qu'on avance en âge, on a envie de faire passer des messages. Donc Space Invader par exemple, pour parler de lui, qui à la base est un taggeur, c'est-à-dire qu'il a aussi fait des tags sauvages pas très beau dans la rue, et il s'est dit je vais peut-être faire autre chose, j'ai envie de poser mon empreinte, mais dans une autre forme d'art. On a l'exemple de Mademoiselle Kat, Miss Van à Toulouse, qui elle aussi peignait dans la rue sous une autre forme, qui ont commencé par faire des petites signatures et se sont vite mis à mettre des logotypes ou des peintures.
Il n'y a pas qu'une seule forme de graffiti.
Tout à fait, et le pochoir c'est l'ancêtre un peu de ce truc, mais la revendication c'est d'abord regardez-nous, on est là, on existe, on pose notre signature partout, et puis après, plus notre signature est belle, plus elle veut dire quelque chose, et plus on est reconnu dans la ville. Donc après, dire que c'est beau, c'est pas beau, ça, moi personnellement, en tant que graffiti artiste, je regarde toutes les signatures, tout ce qui est écrit dans la rue, ça m'intéresse, parce que c'est des gens qui ont envie de s'exprimer.
Alors il y a beaucoup investir l'espace public en fait.
Il y en a qui ont pas de talent, mais ils ont envie de dire quelque chose.
La beauté de la chose n'a pas de...
Et Tigre, qu'est-ce que tu en penses de ces œuvres street art commandées? Parce que pour moi, il doit être plus sauvage. C'était le cri de quelqu'un personnel, pas organisé, et un peu souterraine, et un peu dans les délinquances, quoi. Le fait qu'il commande ça, ça me dit, c'est un peu comme Che Guevara sur un t-shirt, quoi.
Le pire, c'est le street art dans un musée.
Bah oui.
Encore un street art qui est commandé, c'est une sorte de reconnaissance. Et
est-ce que c'est qualifié street art ou est-ce que c'est art?
Laisser le street art dans la rue, c'est quand même garder tous les aspects concrets, c'est-à-dire s'adresser à tous les gens qui ne vont pas au musée, c'est choisir un lieu, choisir une matérialité de mur.
C'est ça.
Donc il y a la commande, il y a quand même l'essence du street art qui reste.
Mais est-ce qu'une œuvre d'art, la place de le mettre dans un musée, on commande une œuvre d'art, on la met dans la rue, est-ce que ça c'est une œuvre d'art qui est dans la rue ou est-ce que c'est une œuvre qui est street art?
Alors justement, le street art, c'est ce qui est dans la rue. Et quand un artiste qui vient du street art a envie d'en faire un peu quand même son métier, ben après on lui passe des commandes et il en vit. Moi, j'adore taguer dans la rue, mais je le fais pas parce que c'est un peu trop risqué maintenant à mon âge et surtout à mon comment. je fais une dédicace au commissariat de police, mes amis, et à la police municipale bien entendu. Et donc je le fais plus, mais c'est vrai que je peux pas m'empêcher de lire ce qui a marqué.
Je crois qu'il y a une forme de street art à trouver entre ne pas le mettre dans un musée et le faire de façon sauvage. Je trouve que investir l'espace public, mais même si c'est cadré, Bon, effectivement, il y a moins le, la portée politique ou sauvage, hein, voilà, ouais, de rébellion. Oui. Mais il y a quand même une réflexion plastique sur l'espace qui nous a entouré, l'espace concret. Après, oui, voilà, ça, c'est mon point de vue.
Je voulais parler sur la réflexion plastique, oui. Non? Et Cassandra a bien signalé la question du contexte politique, c'est bien, le contexte social, en tant qu'insolence ou irrévérence vis-à-vis d'un État. Et comment on se positionne avec les défis à la loi. Donc là, je pense que l'État ou les pochoirs obéissent à la vitesse d'exécution, à la rapidité. Donc il fallait faire vite et se sauver. Donc en tant que, là, je pense que vous êtes d'accord en différencier que TAG, c'est la signature, c'est anthropologique, c'est marqué en territoire, tandis que quand on parle de street arts, il y a déjà une élaboration. Donc dans ce cas-là, je l'ai manifesté tout à l'heure, la source pour moi, c'est artistique, c'est ce qu'avait fait Mbader. Tandis que tous ces petits carreaux que c'est pour marquer « j'existe », c'est purement égocentrique. Donc là, je ne le donne pas une... Oui, je pense que tu n'es pas d'accord parce que tu es très attaché à la trace, au parcours. Ouais. Mais pour moi, même un étron que tu poses ou une empreinte, ce n'est pas nécessairement de l'art. Hein. Ça pourrait être n'importe quoi. Donc je vais donner un exemple qui me semble qu'il y a non seulement des sens d'élaboration artistique et aussi d'élaboration et de conviction politique, c'est Banksy. Parce que lui, à différence des mystiques, il ne s'est pas vendu à la pub comme Mystique l'a fait.
Il continue.
C'est-à-dire qu'il non seulement véhicule une élaboration artistique par elle-même, par l'œuvre. Par exemple, je te cite le mur de la Cisjordanie, en Palestine, la manière comme on soulève un ballon, un gamin. Donc, c'est très beau. Mais en même temps, il pose une défense assez forte sur les valeurs. Sur l'humanité. Et quand il fait des actions à Disneyland, ou quand il fait des représentations à New York, ou pour les prisonniers politiques habillés en orange, tout ça, il me semble que ça, c'est une position vraiment d'artiste. Pourquoi? Parce que l'artiste n'est pas simplement celui qui va décorer ou qui va faire des choses jolies, mais c'est lui qui va envisager un autre monde.
Transmettre un message.
Non seulement parce qu'il y a la beauté, mais aussi parce qu'il y a aussi des positions sur une nouvelle société ou une manière d'envisager autrement. Et Mystique ne le fait pas. Il reste dans la question purement. Il l'a fait à ce premier moment parce qu'il restait dans l'état sauvage, disons, des.
Mystique
aussi, hein. Mystique, parce que après, il a fait son fonds de commerce pour simplement véhiculer ses phrases.
J'avais quand même une question. Où est-ce qu'on peut voir d'autres choses?
Ah, moi, je peux, Roudali, la maison de crieurs, il est des trompe-l'œil, j'espère.
Oui, il est trompe-l'œil, en fait, dans la ville.
Trompe-l'œil, à Place le Lac aussi.
C'est de l'art qui est fait dans la rue, mais c'est pas du street art.
Oui, c'est pas du street art, mais c'est d'art.
Si vous voulez, c'est presque mur.
Si vous voulez voir du vrai graffiti sauvage au centre-ville de Montauban, je vous invite à aller rue Jules Ladoumègue. C'est le passage, la coulée verte qui va.
C'est la coulée verte où tous les lycéennes et Michelet fument le pétard.
Voilà.
Oui, on connaît bien.
En dessous de Michelet. Et là, voilà, il y a l'expression des jeunes, l'expression des gens, l'expression des punks.
Mais t'appelles ça la coulée verte? C'est pas la coulée verte?
Oui, c'est la continuité.
Ah oui, ça s'appelle la coulée verte et tous les lycéennes.
Non, mais je connais bien l'endroit.
Ça s'appelle rue Jules Ladoumègue.
Ah voilà. Oui, voilà, c'est vrai.
Donc là, des choses.
Et là, il y a beaucoup de choses à voir, à lire. Et que
qui se renouvelle.
Et qui se renouvelle. Alors, on n'a pas le temps d'en parler de cette rue plus longtemps, mais on vous invite à aller vous balader dans Montauban et de regarder aussi avec un œil différent, un œil nouveau, ce qui se fait sur les murs, sur vos murs et sur les espaces
publics.
Oui, moi,
je n'ai pas trop apprécié quand c'était sur le porte de ma garage. Hein. Je signale que je l'ai bien lavé et j'ai été obligée de repeindre.
Voilà, voilà. Donc, on conclut ce débat un peu sur le street art. On pourra y revenir peut-être dans une prochaine émission. Et on se retrouve juste après pour un petit débat sur l'exposition de Gilles Azaro dans une nouvelle galerie à Montauban. Mais en attendant, Cassandra va nous proposer...
Le groupe s'appelle Iguana, c'est un autre groupe local. Donc j'ai essayé de voir que de musique produite, chantée, enregistrée à Montauban. Donc ça, c'est un groupe qui a été enregistré à Léojac et à Montauban. Le groupe s'appelle Iguana, j'ai pas trop le nom là, et le morceau s'appelle Quiero Andar. C'est chanté en espagnol.
Excellent morceau, on le raccourcit un petit peu parce qu'on a envie de vous parler de plein de choses dans Kaleidoscope et on n'aura pas le temps de le faire dans cette petite heure d'émission qui est consacrée donc à la culture urbaine et qui était consacrée à la culture urbaine et qui va maintenant s'attarder quelques minutes sur l'exposition de Monsieur Gilles Lazaro à la nouvelle galerie qui vient d'ouvrir à Montauban, Art Off.
Alors, c'est normal que vous ne l'ayez pas vu en fait, que vous ne l'ayez pas croisé. C'est un magasin de meubles.
C'est un magasin de meubles qui est sur la place, l'esplanade des Fontaines, et qui donne aussi sur la rue, la rue parallèle.
Voilà, qu'on n'a pas relevé, bien sûr.
Voilà, c'est une brocante, magasin de meubles, mais qui ouvre aussi, qui propose son espace à des expositions.
Donc pour bien se rendre compte, enfin je sais pas, j'avais peut-être envie de décrire le truc.
Si,
donc c'est un magasin de meubles.
Oui.
Qui se trouve dans un ancien garage. Donc l'espace est assez immense avec des coursives.
C'est Hugon. L'ancien
Hugon. Je suis pas sûre.
Non, je crois pas.
L'ancien Hugon.
Non.
C'était un magasin de pièces automobiles il y a une vingtaine d'années.
Donc c'est un espace très industriel avec des verrières, donc tout ciment. Bon, c'est assez intéressant. Donc il y a des meubles exposés et l'objectif des propriétaires est aussi d'en faire un espace d'exposition.
Et de vendre des meubles aussi.
De vendre des meubles aussi.
Ils vendent en premier des meubles.
Voilà. Et d'en faire un lieu aussi où il pourrait y avoir des événements artistiques. Donc, en soi, à voir ce que cela devient, parce que là, pour l'instant, c'est assez étrange d'être à la fois vendeur de meubles et galerie. Enfin, de se
mais
vouloir.
Est-ce que les meubles sont des meubles contemporains?
Non, c'est des meubles contemporains.
C'est entre un designer, de meubles designer.
Type scandinave en bois, je dirais.
Il y a du meuble aussi. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait ce petit côté brocante.
Ah bah oui.
Vous êtes venu plutôt pour la peinture. Hein.
Oui. Voilà. Et alors l'étoile était... alors je sais pas quand est-ce que vous êtes allé le voir, l'étoile était accrochée au mur.
Oui.
Voilà.
Non.
Oui.
Non.
Elles étaient posées sur le meuble. C'est parce qu'ils sont en cours d'agencement. Mais donc l'étoile était exposée au mur. L'étoile... c'est des toiles imprimées par sérigraphie, voilà. D'aspect, donc des toiles.
Mais expliquez comment il a fait ça.
Elles sont imprimées, donc c'est pas de la peinture. Et qu'est-ce que ça représente? Alors, qu'est-ce qui est mis sur ces toiles?
C'est des photos
de personnalités. Avec une image de de ce qu'il produit généralement enfin ce qui sa production sculpturale, on va dire comme ça, de ce qu'il fait en 3D avec des imprimantes 3D. Donc il y a la photo de la personnalité, une image 3D
d'un discours ou
d'un discours, mais c'est en fait imprimé, hein. Et oui, vous avez un QR code dans un coin. Donc il faut vous imaginer esthétiquement la chose qui ne ressemble qui n'est pas très attrayant.
J'ai pensé qu'il prend le son. C'est pas lui qui prend le son. Mais donc, alors, un discours, par exemple, de Obama, j'ai vu cela.
Oui.
Un discours d'Obama, il retranscrit les mots, les syllabes, les sons, et il fait son œuvre comme ça.
Alors, oui, je pense que ce sont des sculptures, mais là, ce sont des toiles. Donc, il représente à la fois sa sculpture et la personnalité. Et le QR code permet, avec son téléphone, de capter l'enregistrement audio.
Oui, oui.
Donc, je vous pose la question de l'intérêt des toiles.
Moi, alors, l'intérêt des toiles, il n'y en a peut-être pas, si ce n'est de mettre, de montrer ce qu'il fait, parce qu'il faut savoir quand même que Gilles Lazaro a créé une machine qui met en 3D.
Non, donc,
c'est lui qui a le concept.
L'imprimante 3D?
Non, pas l'imprimante 3D.
Mais le logiciel et le concept. Qui traduit les mots.
D'accord.
Voilà, les sons, donc des petits sons de 10 secondes, 15 secondes, qui sont numérisés et mis en 3D. Donc ça, c'est un logiciel qu'il a créé, qui le fait. Il a aussi, donc grâce à une imprimante 3D un peu spéciale, sculpté, donc c'est
les reliefs vocaux.
Les reliefs vocaux, et il a créé la machine laser qui permet de lire ces reliefs. C'est-à-dire que ces sculptures, il a créé la machine pour les écouter les sculptures. Alors c'est vrai que esthétiquement, c'est moche.
D'avoir la sculpture.
Les sculptures.
Soi, ouais. Je suis pas d'accord. Je trouve que l'intérêt est dans les sculptures à la rigueur. Ça fait comme un paysage. C'est comme si on avait fait un paysage de nos voix, en fait,
c'est
de
ça.
La voix.
Bah oui.
Mais les toiles, par contre, n'ont aucun intérêt dans ce travail-là, puisque du coup,
On va pas lire les toiles, en fait.
Si, avec le QR code.
Ah, avec le QR. Ah, oui.
Voilà,
mais
les toiles n'ont pas d'intérêt.
Il est pas connu pour ses toiles. Il est vraiment reconnu pour ses sculptures de messages vocaux.
Oui, mais en l'occurrence, c'est les toiles qu'on a vues.
Mais parce qu'on est en Toronto, il expose à New York.
Peut-être qu'ils ont pas assez d'argent.
Non, mais les toiles sont la forme de la toile, du châssis, n'a aucun intérêt avec sa démarche, en tout cas. Donc il y a une espèce de contradiction à faire des toiles comme
ça. Pour se faire connaître, c'est pour avoir.
Sinon, j'ai vu sur ce site qu'il fait aussi des bijoux. Des bijoux, il donne des bijoux, donne des pierres précieuses. Il y a un message.
Je t'aime.
Je t'aime. Je crois que c'était ça. Je t'aime.
Voilà, il sculpte donc. C'est assez étrange. Rosendo, je sais que toi, tu as beaucoup de choses à nous dire là-dessus.
Oui, mais je me parlais assez bien.
Merci, Rosendo.
Non, parce que j'ai peur de dépasser les. Il y a beaucoup de choses, effectivement, non, parce que je suis allé voir l'exposition et la sculpture, cette fois-ci, la sculpture, la 3D, était exposée à Montauban.
Au tout début, oui. Au vernissage.
Au vernissage.
Il a collaboré avec un designer pour faire l'espèce de coque en verre. Là,
exactement. Voilà. Mais je suis assez dubitatif, même retenu vis-à-vis de cette production artistique. Parce que si on va le voir du point de vue esthétique, c'est-à-dire forme, texture et couleur, les peintures n'ont pas d'intérêt. Et
ça, je crois qu'on est tous d'accord pour dire que les peintures, c'est même pas des peintures, c'est des impressions.
C'est censé être des objets décoratifs, alors.
Oui, mais même décoratifs,
ça marche pas.
Il faut que tu mettes une étiquette en disant, bon, ça c'est de l'impression, parce que quelqu'un qui ne connaît pas ces procédés d'impression peut croire que c'est de la toile, de la peinture sur toile, non? Donc, c'est un procédé assez connu, non? D'imprimer sur toile.
Oui, ça me fait penser à toutes ces toiles qu'on trouve dans les magasins déco, avec des images imprimées, peu importe.
Oui. Voilà. Bah oui,
c'est le même statut, je pense.
Ce qu'on met dans un hotel Formula, par exemple. Dans le couloir.
Oui, ou dans la déco.
Ok, peut-être, peut-être Campanile, mais excusez-moi, mais donc, c'est un peu ça.
L'image, c'est la photo, numérisée et imprimée. Et par-dessus, au milieu de la photo, au milieu de l'image, il place la transcription graphique de la bande son.
L'image de la
bande son.
Oui,
de la bande son.
De la bande son. Ouais. On aurait pu faire une sculpture, c'est très bizarre.
Oui. Alors, les sculptures en elles-mêmes, il y a un intérêt plutôt topographique, non? Parce que c'est une manière
L'idée pourrait être belle, là.
Oui, même il y a une esthétique propre, parce qu'en parlant de forme, texture et couleur, il a ces trois ingrédients. Oui. Et Cassandre parlait des bijoux, donc, qui avait sur son site. Et effectivement, sur la, les vernis, ah, au moment du vernissage, il y avait aussi quelques pièces où c'était montré une pierre et incrustée, ah, pardon, pas incrustée, mais plutôt.
Dans laquelle était gravée.
Était gravée la, une trace
de
la voix.
De,
bon, oui, alors, je jouais un petit peu les naïfs en disant, mais est-ce qu'on peut écouter ou comment est-ce qu'on peut restituer? Parce que, est-ce qu'il y a un intérêt? Parce que je pourrais faire n'importe quelle trace en disant, ça c'est là. Ça, c'est là.
Oui.
Mais, comme Marcel Duchamp, dans les cas de la. Ce qui importe, ce n'est pas l'œuvre elle-même, mais les concepts de l'œuvre. Non, c'est-à-dire qu'à l'ère de Paris, où donc, je présente. Même si c'est faux, mais j'assume que c'est une imposture dans ces cas. Mais apparemment, lui, c'est du sérieux, non? C'est de l'impression.
Donc il faudrait avoir un mini scanner pour,
Vérifier. Oui, mais
le scanner, c'est lui. Voilà, c'est son bijou. Donc, alors, pour, je voulais juste revenir parce que pour pas trop qu'on s'épanche sur cette question, c'était aussi le principe de la de l'art et de la science, c'est-à-dire que Gilles Lazaro est un artiste qui scientifique.
Mais voilà,
il fait quelque chose d'artistique qui existe déjà, c'est le vinyle. Tu prends un vinyle, tu le mets donc tu mets ton saphir dessus, ton diamant, et il lit un sillon avec dedans des petites
reliefs,
surfaces comme ça.
Donc il était musicien de base.
Il était musicien à la base et batteur et etc etc. Et donc il a rien inventé de vraiment scientifique non plus. Il a fait un mélange entre une lecture laser d'un micro sillon 3D. Enfin bon, bref, c'est mais le concept, voilà,
c'est comme si on avait une part de vinyle énorme.
C'est novateur, c'est exactement ça. T'as une part de vinyle. Tu prends un micro sillon, tu le l'agrandis.
Une tranche de vinyle énorme. En fait.
Voilà, c'est pas exactement la trace du micro du sillon du vinyle, mais c'est quelque chose qui s'y rapporte. Et lui a créé quelque chose qui. Alors, ces toiles, c'est sûr qu'on s'accorde tous à dire qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt. C'est du Photoshop imprimé sur des toiles. Donc, à partir de là, je pense que ça a le mérite d'exister et de montrer son œuvre. Mais l'œuvre du gars, c'est vraiment de faire de la science quelque chose d'artistique.
Mais ta question était vaste. Alors, est-ce que quelqu'un veut répondre l'alliance de la science et l'art?
Moi, c'est justement la question que je me posais. Pourquoi avoir une prétention artistique? Pourquoi ne pas se contenter de créer des objets
techniques? Parce que ça ne sert à rien.
De créer des objets techniques?
Non, mais ce qu'il a créé, je veux dire, c'est est-ce que tu te vois, toi, pour ne serait-ce que pour lire un morceau de musique de 5 minutes, il faudrait que tu aies dans ton jardin, au lieu d'avoir de la pelouse, tu fais ça, il y a un gros scanner qui le lit. Et je veux dire, il n'y a pas d'intérêt
particulier. Moi, je m'interroge vraiment sur l'intérêt du rapport de l'art, enfin, sur le rapport de l'art à la technique. Est-ce que les nouvelles technologies, en fait, suffisent à faire une œuvre d'art, en fait? Et je crois que là, non.
On peut faire un autre débat.
On invite Gilles Lazaro, la prochaine fois.
On aurait pu parler du Fab Lab aussi. Peut-être qu'un jour, on en traitera. Les Fab Labs, c'est bien.
Moi, je connais le Fab Lab.
Allez voir, donc, cette boutique, cette brocante, enfin, ce magasin de meubles.
Tu es sûr? Moi, je ne le conseillerais pas.
Si. Il faut découvrir.
Il faut découvrir. Sinon, il y a un site internet aussi.
Et pour faire une toute petite transition, on va mettre un petit extrait musical. Je crois que c'est Michel Krom.
Oui, moi je vais présenter Michel Krom parce que c'est les potes et aussi ils ont un concert. Je peux annoncer les concerts, mais je vais faire la fin d'émission comme ça. Vous êtes obligés d'écouter la fin d'émission. Donc ça c'est Michel Krom et le morceau s'appelle Le Délinquant.
Je voulais écrire une chanson pour être connu, faire des bifetons. Mais ma muse m'a laissé tomber, comme on laisse voler un bidon. Alors j'ai décidé de copier plutôt que d'essayer de créer. C'est dans la nouvelle chanson française que j'ai puisé mon inspiration. C'est sûr que là je vais gagner. Tu m'étiques, tu plais. N'en croyez pas que je sois intéressé. Moi, tout ce que je veux, c'est me faire succès.
Michel Chrome. Désolé Michel, on est obligé de te couper.
Oui. Désolé voilà. Jean-Louis, Georges et Marcel.
Voilà, c'était un extrait du morceau Le Délinquant, donc un groupe montalbanais.
Et en parlant de groupe montalbanais, j'ai vu un concert le vendredi 20 décembre.
Au Rio Grande.
Oui, c'était au Rio Grande. C'était le last party before the crash. Ils ont fait plusieurs formules pendant plusieurs années. Ça existe depuis 5 ans. Mais ce fois-ci, ils ont décidé de faire des reprises qu'avec des musiciens locaux. Donc, ça déchirait. Et je vais dire une chose. C'est vrai, j'ai un des problèmes parce qu'avec les reprises, la plupart sont des chansons américaines. Donc, il est certain qu'ils chantent bien en anglais, des autres non, mais je vais faire un petit clin d'œil à Laurent Purchat. Laurent Purchat, pour un homme blanc français, il chante excellent. Homme noir américain. Donc, Laurent, tout est génial. Sinon, voilà, je vais dire que le concert est chouette et rendez-vous l'année prochaine. Et
y avait-il du monde?
Il était plein à craquer et c'était vachement chouette parce que c'était très familial. Tout le monde connaît tout le monde et c'était chouette.
Et voilà, il me semble que Rémi, donc, de CFM.
Rémi, notre cher Rémi Tourelle de CFM, il a monté sur scène, il a chanté Les Copains d'abord. Il était monumental. On était très impressionnés. J'espère que Rémi décide un jour d'autre de reprendre sa carrière de musicienne.
On espère.
Oui.
Donc voilà, on conclut cette émission Kaleidoscope, la 5e du genre, voilà, en ce début d'année 2014. On vous donne rendez-vous dans 15 jours. Voilà, ce sera le mardi janvier. On vous laisse deviner.
J'ai juste une petite annonce parce que...
Mais on vous invite, on va inviter les auditeurs et auditrices à aller voir des choses.
Oui, juste jusqu'au 8 janvier, donc mercredi, hein, c'est ça, jusqu'à demain.
Tout à fait.
Il y a une exposition à la galerie du Fort, une expo de Délit du Parc. Donc c'est des céramiques, voilà.
Le foyer du Fort, le foyer des jeunes travailleurs.
Oui, c'est ça, donc allez-y mercredi, hein, ma foi.
Moi, je peux faire une annonce aussi On a écouté Michel Chrome. Ils ont un concert le 18 janvier à La Bastide Saint-Pierre, la salle des Négrettes.
Ok, bon, voilà, c'est fini. Donc, on se donne rendez-vous dans 15 jours. On vous remercie. Vous étiez sur CFM Radio à Montauban et c'était Kaleidoscope. Au revoir.
Au revoir. Au revoir, à bientôt.